Je voudrais d'abord remercier très chaleureusement Nathalie Bull pour son invitation. Je souscris totalement à sa dédicace de ce matin. Je voudrais aussi présenter mes plus plates excuses auprès des participants anglophones parce que je vais parler en français, venant déjà de Paris, mais je sais que la version anglaise leur a été distribuée. Et enfin, je mesure le paradoxe qu'il y a à faire une synthèse de la théorie de Raymond Boudon sur la rationalité ordinaire devant un public composé majoritairement de la famille intellectuelle de Raymond Boudon et des gens les plus proches de lui qui ne vont pas apprendre grand-chose dans ce que je vais dire. Mais comme nous sommes dans les fondations ce matin, après Weber et Mises, il fallait présenter Boudon. Alors je me propose de le faire en trois temps. Premièrement, la conception de Boudon des raisons. Qu'est-ce que contiennent les raisons selon lui? Ce qui l'opposera peut-être ou complétera Weber ou Mises ou d'autres auteurs. Deuxièmement, à quoi sont reliées les raisons dans sa théorie de la rationalité ordinaire? Elles sont reliées principalement à des actions et des effets que les actions vont avoir. Là, Mises, avec sa praxiologie, présente des compléments extrêmement intéressants. Donc les raisons provoquent des actions qui ont des effets, et aussi les raisons sont greffées sur des contextes sociaux. On dit souvent que le macro-sociologique s'explique par le micro, et le micro se comprend avec les raisons des gens. Donc ce sera la deuxième partie. Et enfin, Boudon lui-même a positionné sa théorie face aux théories rivales, et donc je présenterai brièvement cette fameuse reclassement de son modèle de rationalité ordinaire face à des rivaux ou à des gens proches. Et je terminerai très brièvement par les nuances que certains de ses proches proposent en ce moment, mais comme la plupart sont là et prendront la parole cet après-midi ou demain, je serai particulièrement bref sur le sujet. Alors chacun connaît l'œuvre considérable de Raymond Boudon, et je voulais juste insister sur le fait que sa théorie de la rationalité ordinaire constitue peut-être la clé de voûte, tout est relié à cela depuis le début, mais aussi l'aboutissement, puisque c'est pendant les 10 dernières années de son œuvre qu'il explicite le plus minutieusement cette théorie, à partir de Raison, bonne raison en 2003 et jusqu'au Rouet de Montaigne en 2013, mais tout spécialement dans son Que sais-je sur la rationalité de 2009, où il précise son vocabulaire comme s'il sentait qu'il n'allait pas avoir beaucoup de temps pour préciser encore ce concept. Donc, quel est le contenu des raisons, premièrement? Eh bien, elles sont instrumentales, axiologiques et cognitives. Je vais m'en expliquer un petit peu plus longuement. Or, le débat sur les raisons, on l'a vu avec fascination tout à l'heure avec Weber puis Mises, c'est un débat extrêmement dense en sciences sociales. Et depuis Max Weber, il y a quand même deux camps qui s'opposent, ou avant Max Weber, les théoriciens de la rationalité instrumentale surreprésentés chez les économistes et qui ramènent les raisons à l'intérêt, à l'égoïsme, aux conséquences. On pourrait dire les utilitaristes, souvent anglo-saxons et souvent se réclamant d'Adam Smith, même s'il y a la théorie des sentiments moraux qui complète chez Adam Smith. Et puis en face, il y a les théoriciens de la rationalité axiologique qui considèrent que nous répondons non pas à nos intérêts égoïstes, mais à des principes moraux, à un devoir. C'est bien sûr l'idéalisme kantien que Boudon fréquente beaucoup et qu'il retrouve chez Max Weber ou chez Durkheim d'ailleurs. Et souvent, donc, des Allemands qui prétendent que l'individu répond à des principes et non pas est mu par ses intérêts ou ses passions. La grandeur de Max Weber est d'avoir réconcilié les deux entre rationalité instrumentale et rationalité axiologique. Il n'y a pas besoin de se battre sur l'un ou l'autre, il y a les deux dans tout comportement humain. Mais Boudon va ajouter une troisième dimension qu'il va creuser jusqu'au point d'en faire la principale, sans doute, je pense que Nathalie ne démentira pas, et qui est la dimension cognitive de la rationalité avec tous les travaux du XXe siècle, y compris en psychologie cognitive, et qui sont la capacité d'apprendre, de mémoriser, de raisonner, d'argumenter, et qui vont compléter nos intérêts utilitaires d'une part et nos principes moraux universels d'autre part. Et c'est là peut-être qu'il complète Max Weber précisément, parce que Max Weber, ça a été rappelé par Christian à l'instant, voit plutôt quatre dimensions, instrumentale, axiologique, sentimentale, émotionnelle, affective, et puis enfin traditionnelle. Là où on le sent bien, Boudon va plutôt minorer les deux dernières dimensions, affectives et traditionnelles, pour retenir les deux premières, instrumentales et axiologiques. Et sa proposition va donc dans ce sens-là. Alors pourquoi enlève-t-il les deux dimensions affectives et traditionnelles? Peut-être a-t-il tort, et des présentateurs cet après-midi ou demain vont y revenir en disant il a peut-être eu tort de les enlever. Eh bien, il avait des arguments pour cela, et je présenterai un argument qu'il n'a pas tellement publié, mais qu'il donnait très souvent à l'oral pour ne pas prendre tellement en compte les émotions. Il répondait très souvent, elles ont un fondement cognitif. Il prenait cet exemple, c'est de lui. Imaginez une vieille dame qui retire de l'argent à un distributeur de billets et qui, à un moment donné, mettant ses billets dans son sac, se fait agresser par un voyou qui la tape et qui part avec les billets. Ben, je suis indigné de voir cela et je vais peut-être soit fuir, soit la prendre en photo, soit prendre un sac à dos et courir après le voleur. Mais, fait remarquer Raymond Boudon, avant d'être indigné, encore a-t-il fallu que de manière cognitive, j'évalue ce qui se passe, que c'est une vieille dame, que c'est un malfrat, que c'est de l'argent, qu'on lui tape dessus, et que donc il y a d'abord une source cognitive avant toute affection, toute émotion, et que donc il faut d'abord prendre la source cognitive des raisons avant tout. Et pour minorer les traditions, ben, dans une perspective évolutive, il montre que les traditions résultent de tri sélectifs multiples, mais qu'au départ, elles étaient soit instrumentales, des gens étaient égoïstes ou utilitaires, soit elles étaient axiologiques, j'avais des principes, soit elles étaient cognitives, puis ensuite elles se sont transmises, on a peut-être oublié d'où elles venaient, mais elles doivent résister au temps quand même, donc il reste des dimensions cognitives, instrumentales et axiologiques avant tout. Et c'est pourquoi Boudon minore ces dimensions mises en avant par Max Weber. En revanche, il ne s'engouffre pas dans les théories cognitives du XXe siècle sans précaution. Il est en particulier extrêmement méfiant envers les théories des biais cognitifs tellement à la mode et tellement mises en exergue par Tversky et Kahneman. Pourquoi ? Parce que si je débarque en Angleterre et que je vois quelqu'un de roux, bien sûr, je vais penser que tous les Anglais sont roux, mais assez vite, je vais rencontrer des Anglais blonds ou bruns qui vont me faire dire que je m'étais peut-être un peu enthousiasmé. Et si je vois plonger un bâton dans un liquide, il m'a l'air courbe, mais je sais très bien qu'il est droit et que c'est une illusion d'optique. En d'autres termes, chacun a de bonnes raisons de se persuader d'idées fragiles, douteuses ou fausses pendant un temps, mais il n'est pas interdit de s'accrocher et d'approcher du juste et du vrai, et Boudon a consacré 3 livres à cela, en particulier pour mettre en garde contre les théories du biais cognitif, et les gens qui veulent reprendre ces théories le savent très bien que le maître n'était pas tout à fait de ce point de vue. Donc c'est une version de la cognition très mesurée et très prudente qu'adopte Boudon. Alors, je termine cette première partie sur l'exemple qu'il préférait peut-être pour illustrer son propos et qui consiste à regarder les enquêtes sur les valeurs. Alors que je les retrouve, la diapo est là. Et ce sont ces fameuses enquêtes qui, pour mesurer la tolérance, mais la tolérance au sens les gens sont-ils racistes, islamophobes, xénophobes, antisémites, homophobes, donc l'enjeu est considérable, on ne va pas leur demander êtes-vous raciste, ça n'a pas de sens. Donc on leur propose d'évaluer leur voisin. Quel est le voisin que vous rejetteriez ? Et suivant qu'ils rejettent, un voisin, famille nombreuse, autre race, étranger, malade du sida, instable émotionnellement, criminel, homosexuel, extrémiste, toxicomane, alcoolique, on verra ce qu'ils ont en tête et si derrière ils sont tolérants à la différence. Le voisin est plus doux que le collègue de travail ou que le futur gendre ou la future belle-fille, donc ça n'engage à rien de rejeter son voisin ou à peu, donc on trahit ses tendances éventuellement de rejet par cette réponse. Et Boudon nous dit, en décryptant ses travaux, qu'on va retrouver un combiné de rationalité instrumentale, axiologique et cognitive dans les réponses. Si les gens disent que ce voisin est responsable de son comportement ou savent ce que c'est que quelqu'un de malade du sida ou d'alcoolique, ils sont dans la cognition. Je sais ce que c'est que l'addiction à l'alcool, je connais, j'ai une idée là-dessus. S'ils se contentent de dire que ce comportement est répréhensible au regard d'un principe, c'est bien, c'est pas bien de boire ou de se droguer ou d'être extrémiste, ils seront dans l'axiologie. Et si en revanche c'est un voisin qui me dérange, il va faire du bruit, il va avoir un comportement intempestif dans la cage d'escalier, c'est purement instrumental, là, c'est les conséquences qui vont me déranger. Et Boudon montre qu'il y a un combiné des trois à chaque fois dans les réponses. Et contrairement à ce qu'on pense, les réponses ne sont pas d'abord instrumentales. Les gens sont beaucoup moins égoïstes et soucieux des conséquences qu'on ne le pense. Parce que si on revient à la diapo première, je suis extrêmement bienveillant envers les familles nombreuses, alors qu'ils vont me déranger, les enfants vont faire du bruit, me marcher sur la tête, crier la nuit, parce que cognitivement, je sais ce que c'est qu'une famille, et axiologiquement, c'est mignon, on a besoin d'enfants, donc j'ose pas dire que ça me dérange, quoi. Voilà. Donc mon instrumental est rangé très bas. À nouveau, dans d'autres réponses, c'est plutôt des principes, c'est pas bien de faire ça, même si ça me dérange pas. Et il ne vous aura pas échappé que ma dénonciation des alcooliques et des toxicomanes la combine les trois. À la fois, j'ai la prétention de connaître, à tort ou à raison, je désapprouve moralement ces agissements, et en plus, ils vont me déranger, ces gens-là. Donc là, ils ramassent les trois dimensions à la fois, et ils sont jugés très mal. Je prends les, vous l'avez vu, les dates de la France de 2000, parce que Raymond Boudon a commenté lui-même ces chiffres, mais on aurait maintenant les vagues de 2010 et 2020 dans tous les pays du monde pour se faire une idée plus précise de la chose. Alors j'en viens au deuxième temps, qui est celui des effets, des actions provoquées par ces raisons d'une part, et des contextes collectifs dans lesquels ces raisons se développent. Et donc d'abord les effets des actions, ensuite les contextes. On arrive au cœur de l'individualisme méthodologique et je donne la définition boudonienne de l'individualisme méthodologique éclairée par la rationalité ordinaire. Quelqu'un qui pratique l'IM prétend que tout phénomène social peut être analysé comme effet émergent d'action ou de croyance individuelle, donc les effets émergents. Ces croyances ou actions résultant de raisons, on vient de voir leur dimension, que les gens ont de penser ou de se comporter ainsi, dans le contexte, n'oublions pas le contexte qui est le leur. C'est la fameuse équation présentée par Boudon dès 84 et retravaillée dans le fameux « Que sais-je » réécrit avec Renaud, et qui est cette équation, grand S, tout phénomène social, et fonction de petit f, les actions qui les ont provoquées, petit a, lesquelles actions sont dues aux raisons que les gens ont d'agir ainsi, les fameuses raisons dont on vient de parler qui ont ces trois dimensions, mais ces raisons ne sortent pas de rien, elles ne sont pas dans le vide et sont greffées sur un contexte. Et c'est très important ce grand C parce que souvent les détracteurs de l'individualisme méthodologique disent « mais vous avez affaire à des électrons libres, vous raccrochez l'individu à rien du tout ». Une des variables essentielles de l'équation, c'est le grand C. J'ai pas des raisons dans le vide, j'ai des raisons dans une situation. La vieille dame se fait bel et bien agresser devant le distributeur de billets. C'est pas dans le vide que je suis tout d'un coup indigné. Alors vous avez remarqué que le grand S et le grand C sont en majuscule parce qu'on est dans le macro-social et dans le collectif, et que le petit a et le petit r sont en minuscule parce qu'on est dans le micro-social et l'individuel, et qu'on est obligé d'être dans l'individuel, c'est le cœur du raisonnement, pour comprendre le collectif, ce que fait tout sociologue. Je me suis permis de faire un petit schéma qui développe un petit peu plus. Alors, il y a deux lectures de ce schéma. Soit je suis l'acteur social qui, dans son contexte, développe des raisons qui vont conduire à des actions, à des effets collectifs, et ça va donner le phénomène social. Ça, c'est le démarche de l'acteur. Exemple, un policier tire sur un jeune homme, j'ai des raisons de trouver ça horrible, ou bien au contraire de rester chez moi, ou bien et je vais peut-être rester chez moi ou aller casser des vitrines, ou attendre que d'autres le fassent pour aller piller les magasins, et ça va faire une émeute comme effet émergent, si vous voulez. Mais le sociologue raisonne dans l'autre sens. Il arrive une fois que tout est fini, et une fois que les effets se sont produits, il doit reconstituer tout cela à l'envers, lui. Et par conséquent, s'il y a une émeute, pourquoi certains sont énervés, pourquoi d'autres pas, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là, pour casser tout, ou pour au contraire être très très heurté qu'on puisse casser une école ou une association, et dans quel contexte est-on pour que tout cela se produise. Donc le sociologue va à l'envers de l'équation, les effets émergents d'abord, les raisons ensuite et le contexte pour terminer. C'est pourquoi j'ai choisi de greffer les raisons d'abord sur les effets émergents et ensuite sur le contexte, comme le fait l'enquêteur sociologique. Alors, les effets émergents chez Boudon, c'est ce qu'il a eu le plus de mal à reclasser. Les raisons, il les classe sans problème, vous le savez. Les contextes aussi, on va le voir très brièvement, je rassure Michel. Mais les effets émergents, il a cherché toute sa vie à les reclasser, il a du mal à le faire. Il propose que, bon, des effets pas toujours voulus, certains sont négatifs ou positifs, mais les effets pervers ne sont qu'un cas particulier. On a aussi des bonnes surprises dans la vie, pour quelques-uns ou pour tous, et puis source de changement ou de stabilité. Alors je prends à nouveau un ou deux exemples. Un de stabilité, tout bouge et tout s'arrête, et un de changement, rien ne bouge et tout explose. Ils sont tous les deux emprunts à Schelling, et Boudon, raffolé de ces exemples qu'on manie pour prouver la véracité de son équation. Alors c'est très simple, hein, pour Schelling, vous connaissez sans doute par cœur cette situation de gens qui sont en embouteillage alors qu'il n'y a aucun obstacle de leur côté de l'autoroute, parce qu'il y a un accident de l'autre côté de la route qui ne bloque personne. Donc pourquoi s'arrête-t-il ? Il n'y a pas besoin d'être un grand enquêteur pour s'apercevoir qu'ils ont envie de donner un petit coup d'œil, donc un petit coup de frein, et que de faire ça, ça provoque un embouteillage. Ce qui est intéressant, c'est que les raisons sont cognitives et pas du tout instrumentales. C'est très nuisible de faire ça. Je suis complètement idiot, finalement, de vouloir perdre trois quarts d'heure à jeter un coup d'œil de 30 secondes, même pas. Donc, c'est des raisons parfaitement cognitives, très peu axiologiques. C'est pas très beau et très glorieux de faire ça. Et très peu instrumentales. Ça va me nuire profondément et me retourne tomber dessus. Donc voilà, finalement, j'ai des raisons de m'arrêter, même si tout cela est assez stupide et assez nuisible collectivement. Mais alors que je bougeais, je m'arrête. Vous allez trouver un peu ridicule de prendre un exemple aussi sommaire, mais je vous rappelle que le grand modèle de Raymond Boudon d'inégalité des chances est basé sur un embouteillage où on a créé trop de diplômés par rapport au nombre de débouchés de cadres supérieurs et où ça crée un énorme embouteillage et rien d'autre, et que c'est pas tellement la peine d'aller chercher beaucoup d'autres explications, même si d'autres se complètent. Alors dans le modèle de Schelling que Boudon apprécie beaucoup et qu'il a fait traduire en français et qu'il a commenté, on est dans une cité où il y a une mixité sociale, où il y a autant de gens blancs que noirs. Les pions symbolisent donc de façon très forte des différences fortes. Et pour l'instant, il y a une parité, une mixité sociale parfaite, puisqu'il y a autant de gens d'un côté que de l'autre, et que chaque personne a 8 voisins, 4 d'une couleur, 4 de l'autre. Alors si tout le monde est raciste, en un clin d'œil, tout le monde va se séparer et aller déménager pour se retrouver entre soi. Mais le modèle de Schelling est fascinant parce qu'il montre que si je fais l'hypothèse que les gens sont tolérants et admettent très bien d'avoir moitié de voisins pareils, mais moitié de voisins autres, et qu'au contraire, ce sera très agréable d'avoir moitié-moitié, ce que je veux pas, c'est être en minorité. Mais là, on voit à quel point l'équilibre est instable. Il suffit que quelqu'un déménage, ici, mettons quelqu'un de blanc. Si revient quelqu'un de blanc, un pion, puisque c'est une simulation, tout reste en équilibre. Il suffit que ce soit quelqu'un d'une autre catégorie qui arrive, et en cascade, presque aussi vite que si les gens étaient racistes, eh bien, l'équilibre va s'en trouver détruit. Et il y a des ghettos involontaires. Je ne dis pas que tout le monde a des ghettos involontaires, mais peut-être il y a plus de ghettos que les gens n'aimeraient pas voir arriver. Ils sont plus partisans qu'on ne croit de la mixité sociale, mais pas au point de se retrouver en minorité dans leur quartier. C'est le simple propos de Schelling ou de Boudon. Mais donc, on voit bien l'importance des effets émergents. Je ne redéroule pas l'équation et tout ce qu'on peut tirer de ces exemples. Les raisons provoquent des actions qui provoquent des effets émergents qui échappent aux acteurs et que le sociologue doit reconstituer. Alors, Boudon a quand même reclassé les effets émergents dans un de ses livres, La logique du social, en prenant l'analyse systémique des effets reproductifs, cumulatifs ou de transformation. Bon, dans l'autoroute, je change pas l'autoroute, je bouchonne dedans. Dans le ghetto involontaire, je change la physionomie complète de la ville, donc je transforme l'affaire. Alors que dans un autre, je cumule des choses. Alors, il est temps de passer au contexte. Et Boudon a une grande attention au contexte parce que précisément, il sait qu'on reproche aux individualistes méthodologues de les négliger. Il décrit interdépendance, je n'ai pas de relation et de communication avec les autres, mais les autres rétroagissent sur moi. Système de rôle, bien étudié par Merton, Coleman, Crozier dans la théorie des organisations, et dynamique. Je vais prendre à nouveau plutôt deux exemples très brefs pour montrer l'importance des contextes. Ne jamais négliger que les raisons ordinaires sont dans des contextes quotidiens. Le premier exemple, c'est l'exemple célèbre de Coleman, où un nouveau médicament se diffuse d'une certaine manière à l'hôpital et d'une autre manière chez les médecins de ville. Alors, vous voyez que pendant des mois et des mois, rien ne se passe à l'hôpital, puis du jour au lendemain, on passe de 0 à 100% de prescriptions. Alors que dans la médecine de ville, tout de suite, les médecins isolés, chacun dans leur rue, essayent un petit peu, 20%, 80%, 90%. Et deux ans après, il y a quand même 10% des médecins, qui sont pas avant-gardistes, mais plutôt arrière-gardistes, comme dans les effets de mode, qui seront toujours pas enclins à prescrire. Et Boudon remarque que tous les médecins veulent soigner leurs patients, donc c'est pas ça qui fait la différence, c'est le contexte. Les raisons sont les mêmes, les effets de soigner les gens sont les mêmes, mais le contexte n'étant pas le même, les raisons ne vont pas se déployer de la même manière. Et on l'aura assez vite deviné. À l'hôpital, on attend que le chef ait parlé. Et tant que le chef n'a pas parlé, tout le monde attend. Et le chef, il est souvent très sollicité et il a une pile de choses sur sa table. Alors que dans la médecine de ville, je ne vais pas aller parler à mes collègues, même si je les connais, parce que ce sont des associés rivaux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Donc, j'essaye tout seul dans mon coin comme je peux. Et ça explique la courbe et ça explique le déroulement. Et l'importance, donc, cette fois, il faut avoir deux lignes dans la mesure de l'équation. Une ligne pour le contexte numéro 1 et une ligne pour le contexte numéro 2, parce que les mêmes raisons ne débouchent pas de la même façon suivant que j'attends les ordres du chef, même si je veux soigner mes malades, ou que je suis seul face à mon patient ou mon malade et que je décide ou pas de lui prescrire. Il y a l'oligopole d'un côté ou le monopole d'un côté, puis la concurrence pure et parfaite de l'autre comme contexte, si vous voulez. Alors, deuxième et dernier exemple, je vous rassure. Alors, Robert Schall est un condisciple de Boudon à Columbia, quand Boudon a été étudiant un an à Columbia, c'est la même génération, formé par Merton et par Lazarsfeld. Et il y a une monographie fascinante où Oberschall constate que dans le sud des États-Unis, on est dans les années 60-70, donc c'est pas le président Obama, premier président noir. Il y a encore des discriminations, une lutte pour l'égalité des droits entre noirs et blancs. Et là où la cause est en retard dans le sud, tout se passe bien, les gens se parlent. Et là où la cause est presque aboutie dans le nord, où les gens prennent le métro ensemble, entrent dans les mêmes cafés, vont dans les écoles ensemble, c'est là qu'il y a des émeutes, des manifestations, des violences. C'est paradoxal que là où ça va mal, les gens sont sages, et là où ça va bien, les gens sont énervés. Et bien, contexte à nouveau, tout militant noir légitimement veut aboutir à l'égalité des droits, et il a bien raison, et il lutte pour cela. Pourquoi les uns sont diplomates et les autres sont violents et guerriers et agressifs? Tout simplement parce que dans le sud, les gens sont conscients de cela, savent qu'il y a du chemin, il y a les églises évangéliques, il faut pas heurter des voisins de bonne volonté qui ont enfin compris qu'il fallait cheminer, même s'il y a encore du chemin. Alors que dans le nord, c'est les grandes villes, c'est New York, c'est Washington, etc., c'est l'Est aussi, les journaux sont saturés, les députés n'en peuvent plus, il y a d'autres causes qui arrivent, les féministes, les jeunes, on vous a servi, qu'est-ce que vous demandez de plus? Donc pour arracher les trois derniers amendements, il faut aller casser des vitrines, brûler des pneus à des heures de grande écoute pour que les médias soient là, et on sait faire, c'est de l'agitation propagande classique. Donc on le voit à nouveau que dans deux contextes différents, les raisons étant les mêmes, je veux faire aboutir ma cause, je ne vais pas m'y prendre de la même façon et ne pas provoquer les mêmes choses, de la diplomatie très douce d'un côté alors même que ça va mal, et de l'agressivité très agite propagande de l'autre alors que finalement presque tout est déjà obtenu, mais pas encore tout 100%. C'est très tocquevillien et Oberschall se réclame de Tocqueville bien sûr. Alors Boudon termine cette considération de l'équation par deux remarques, et ça me permettra de faire une grande conclusion brève. Il y a ceux qui surestiment les raisons et ceux qui les sous-estiment. Alors ceux qui les sous-estiment sont les naturalistes, et il se bat toute son œuvre contre eux. Les gens qui, depuis Comte, le jeune Durkheim, veulent juste trouver des causes matérielles aux choses sans faire le détour par l'individualisme méthodologique et qui ne veulent jamais entrer dans le cercle des raisons, quelles qu'elles soient. Et donc on relie directement des causes, c'est même plus un contexte, c'est une cause déterminante, quelle qu'elle soit, à un phénomène social sans aller chercher l'individu et ses raisons, et c'est une grave erreur. Mais il y a une erreur inverse que Boudon dénonce aussi, qui serait de tout faire partir des raisons, comme si j'étais capable, moi, de construire socialement une réalité indépendante de tout, et que tout soit construction sociale de la réalité, donc tout le fruit de mon entendement, de mes raisons, comme si le réel était le rationnel et rien d'autre, en niant le fait qu'il y a des choses indépendantes de moi, auxquelles je ne peux rien, que ma raison n'a pas inventé, qu'elle ne capte peut-être pas totalement si on suit Kant, mais le contexte est bel et bien là, et m'échappe, et c'est pas moi qui suis en train de me représenter les choses et de tout construire non plus. Donc Boudon se bat contre les deux. Et ça lui permet précisément de positionner son modèle de rationalité ordinaire face aux théories des sciences sociales d'une part, et que ses proches puissent affiner désormais le modèle à sa suite. Alors on voit bien que ceux qui sont loin de tout cela et loin des raisons sont les matérialistes avec Marx. Je ne confondrai pas les matérialistes avec Marx lui-même, qui est d'une subtilité exceptionnelle et qui parle d'individualisme méthodologique souvent. Les positivistes depuis Comte, et là Comte n'est pas tellement autre que ce qu'il dit, c'est-à-dire pas de raison que ce qu'on observe. Les culturalistes, la psychanalyse, les structuralistes, et je ne confondrai pas le structuraliste de base avec Lévi-Strauss, un génie, ou avec Foucault ou Bourdieu, mais bien sûr, mais Boudon a consacré un livre entier à Lévi-Strauss, à quoi sert la notion de structure, mais elle sert à quelque chose, mais à condition de compléter par des raisons. Ou les approches neuronales très à la mode depuis Changeux, mais l'homme neuronal, si on regarde par imagerie médicale ce qui se passe dans les circuits du cerveau, on n'a peut-être pas non plus vraiment capté les raisons humaines et les idées qui font l'humanité avec ces images et ces neurones. Donc d'une part, dépasser tout cela, mais d'autre part, ne pas aller trop loin non plus dans les raisons et ne pas en gros prendre la rationalité instrumentale des économistes pour l'ensemble de la rationalité, alors qu'elle a des dimensions axiologiques et cognitives aussi, pour le dire très vite. Et je ne peux pas faire ma synthèse sans évoquer finalement ce dernier rapport de Raymond Boudon. Depuis 2003 jusqu'à 2013, il ne cesse de répéter cela, qu'il reclasse les théories des sciences sociales en fonction de 6 postulats, P1, 2, 3, 4, 5, 6, qui se cumulent. Premièrement, est-ce que je prends en compte l'individu comme étant source du collectif ? Deuxièmement, est-ce que j'arrive à comprendre cet individu ? Et je renvoie à la magnifique conférence sur Max Weber et Understanding et la compréhension. Qu'est-ce que c'est la compréhension pour expliquer ? Mais si je suis capable de comprendre, est-ce que je me rends compte que l'individu a toujours des raisons, bonnes ou mauvaises de selon moi, mais bonnes pour lui suffisamment pour qu'il ait fait cela ? Vous avez bien compris que le Boudon va jusqu'à P3. Systématiquement, il faut aller jusqu'à P3. Mais ensuite, est-ce que ces raisons sont égoïstes, conséquentialistes, maximisatrices ? Pas toujours, sinon on vire dans l'instrumental pur. Or, il y a de l'axiologique, or, il y a du cognitif là-dedans aussi. Donc toujours P3, mais pas toujours jusqu'à P6. Alors, je vais très vite, c'est plutôt moi qui reclasse des gens et qui donne des notes aux gens, ce que Boudon faisait très très peu, peut-être un peu dans le Rouet de Montaigne, où il se lâche un peu, il n'hésite pas à dire voilà les mauvais, voilà les bons dans tout ça, mais il le fait avec mesure, comme toujours. Mais ceux qui ne veulent pas entrer dans le cercle des raisons, en voilà quelques-uns. Ceux qui s'y aventurent de temps en temps, Durkheim, complètement le grand maître, c'est Weber avant tout, Boudon, Tocqueville, mais ensuite ne pas aller trop loin. Michel Crozier, cher à Boudon, a tendance à faire de la rationalité quelque chose de très Herbert Simon, rationalité limitée, donc vers P5, mais il y a des gens qui sont généreux et qui ne sont pas toujours égoïstes. Il y a des gens qui répondent à des principes et qui sont kantiens et qui ne sont pas toujours intéressés. Et puis n'allons pas jusqu'à Coleman, Gary Becker, pas Howard, Gary Becker et la théorie du choix rationnel où on est dans le pur instrumental. Alors, vous avez bien vu que Boudon, c'est de lui, hein, c'est dans un de ses livres, il fait ce cercle, soit j'entre dans le cercle de la rationalité ou pas, donc j'entre dans l'individualisme méthodologique, et soit je prends la rationalité pour purement instrumentale, donc le petit cercle orange pour l'intégralité du cercle, et j'ai tort de faire ça, et on a raison de critiquer l'individualisme méthodologique s'il n'y a que des gens qui font cela, qui sont réducteurs, parce qu'il ne faut pas oublier la dimension axiologique et cognitive. Alors ça, je passe et je termine en montrant que les disciples, la famille intellectuelle de Boudon, qui va être très bien représentée cet après-midi, ce matin encore et demain, continue l'œuvre et la réflexion, et ce sera très intéressant. Gianluca Manzo, qu'on écoutera demain, retourne lui très à P6, à la rationalité instrumentale et à Coleman, mais il vous présentera ses modèles de simulation multi-agents. Cette réduction est-elle souhaitable ? Bah, quand même pas. Il faut quand même garder quelque chose d'axiologique et de cognitif. Ce que lui disent Francesco Di Iorio, si j'ai bien compris qu'il n'allait pas venir peut-être. Et en tout cas, Alban Bouvier ici présent, qui dit qu'il ne faut pas être réducteur, et notamment philosophie analytique, ne pas se contenter de l'utilité ou de l'intérêt, mais il le dira beaucoup mieux que moi étant là. De ceux qui, au contraire, veulent élargir le modèle et non pas le réduire à la rationalité instrumentale, Gérald Bronner, bien connu, qui voudrait réintroduire, lui, les biais cognitifs de Tversky et Kahneman, on sait ce qu'en pense Boudon, et Gérald Bronner le sait très bien, mais persiste et signe à vouloir les réintroduire. Enzo Di Nuccio, qui veut compléter avec de l'herméneutique de Gadamer, je me fie au grand numéro de 2020 de l'année sociologique, bien sûr, et Pierre de Meulener, ici présent, qui voudrait réajouter les émotions, les sentiments, comme le disait Max Weber, et moins Boudon, et bien sûr les normes sociales qui sont peut-être pas assez bien représentées et mises dans le modèle de Boudon. Faut-il aller dans ce sens d'une augmentation ? Et puis il y a les gens qui pensent très strictement que la RO est à sa bonne place sans sans doute. Notre regrettée Sylvie Mesure, bien entendu, qui rappelait à chaque fois que la rationalité axiologique, ça existe et qu'il ne faut jamais l'oublier et qu'on ne peut pas non plus. Donc, aller jusqu'à P4, 5, 6, comme ça, aveuglément, sans se poser la question, en tout cas, et que Max Weber avait si bien mentionné déjà. Nathalie Bull, ici présente, et qui va prendre la parole dans un instant, et qui peut-être montre que Boudon est trop kantien et trop méthodologue et se prononce pas assez sur l'ontologie. Qu'est-ce que la personne humaine? Et voudrait réintroduire Aristote, mais sans verser dans la métaphysique pour autant, si je l'ai bien lu. Bernard Vallade, qu'il faut citer ce matin, bien entendu, et qui va chercher les sources de la rationalité ordinaire, non pas seulement chez TWD, c'est-à-dire Tocqueville, Weber, Boudon, lapsus de ma part, Durkheim, mais aussi par Eto Zimelta. Philippe Nemo, cher à Renaud et à moi, puisqu'on intervient à l'école professorale de Paris à ses côtés, et qui compare avec Hayek et non pas avec Mises, mais c'est très intéressant parce qu'Hayek n'est pas que dans la rationalité instrumentale, bien sûr, beaucoup de cognitifs. Renaud Fiol, ici présent, qui relie tout cela aussi à la théorie de l'action de l'école autrichienne. Et enfin, bon, je me permets de faire donc une petite page de publicité pour conclure. Ce sera le mot de la fin. J'ai commis un livre sur Boudon qui résume chacun de ses livres. C'est pas très compliqué, donc vous pourrez vous référer à ce livre pour compléter. Un petit manuel qui tourne depuis très longtemps, depuis 20-25 ans, et qui, par système de fiches, montre comment la rationalité ordinaire éclaire plein de phénomènes. Il y a 80 fiches. Et puis un manuel tout récent qui reclasse les théories des sciences sociales suivant 3 critères. Est-ce qu'ils adoptent ou pas la rationalité? Et là, c'est la grille de Boudon, les 6 postulats. Mais aussi, est-ce qu'ils adoptent les effets émergents? Et quelle forme d'effets émergents? Et enfin, est-ce qu'ils adoptent les contextes et des contextes fonctionnels, de rôle, dynamique, comme Boudon le faisait, mais comme tout le monde ne le fait pas? Donc, jusqu'où les autres théoriciens sont proches ou pas de la rationalité ordinaire de Boudon? Merci de votre attention.